This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire, ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier, réalisée par Léna Kim. Alors cette année-là, 1949, voilà 4 ans que la guerre est terminée et que la France se retrousse les manches. Car après une guerre de cette ampleur, eh bien, il faut reconstruire. Il faut tout reconstruire. Les réseaux, les routes, les chemins de fer, les maisons, puisque la guerre a laissé un très grand nombre de gens dans la rue, sans abri. Et donc on imagine très rapidement des hébergements de fortune. Et la reconstruction est en train de battre son plein. Un grand emprunt est engagé dans le but, effectivement, de financer cette reconstruction. Le plan Marshall, qui a été négocié entre les alliés, et notamment les États-Unis d'un côté et les alliés européens de l'autre, va fonctionner à plein et les États-Unis vont littéralement doper l'économie européenne, en particulier l'économie française. Et c'est ainsi que, à travers des accords bilatéraux, eh bien, les Américains vont apporter leur soutien à l'économie française, notamment, on va entendre ici une archive, notamment en matière de chemin de fer.
À Cherbourg, 2500 wagons en pièces détachées viennent d'arriver des États-Unis. Ces wagons, commandés et choisis par la SNCF, sont pour 85% un don de l'Amérique à la France. Ils sont livrés dans le cadre du plan de coopération internationale. Monsieur Bruce, représentant en France de l'aide américaine à l'Europe, Monsieur Collin, ministre de la Marine, et Monsieur Flouret, président de la SNCF, étaient venus assister au montage de ce matériel qui contribuera efficacement à la réorganisation de notre parc en même temps qu'il aidera à accroître la puissance de production de l'industrie française. Grâce à cette contribution américaine à notre effort de redressement, le nombre des wagons en France est passé depuis 1945 de 172 000 à plus de 300 000. L'avenir de l'économie française est sur la bonne voie.
C'était un document des actualités françaises. Voilà, c'est sur ce ton que toutes les bandes d'actualité de cette époque étaient commentées. C'est assez succulent, je trouve. Alors, 1949, cette année-là, c'est aussi quelques années à peine après la fin de la guerre. Et c'est un moment clé quant à l'évaluation de la résistance. Alors, évidemment, les débats et les conjonctures sont nombreuses. On ne sait plus très bien qui a résisté, qui n'a pas résisté, qui a collaboré, qui n'a pas collaboré. Et donc, c'est un débat permanent qui fait qu'on évalue les uns les autres. Alors, ce qui s'est passé tout de suite après la guerre, il y a eu des règlements de compte. Et là, évidemment, les choses sont plus compliquées. Plus on s'éloigne de la fin de la guerre et plus les choses deviennent complexes. En tout cas, la position du gouvernement français de cette époque consiste à valoriser tous les actes de résistance pour montrer que eh bien que la France, malgré tout, malgré l'occupation, malgré la collaboration, a quand même été surtout une France résistante. Et c'est ainsi que le président de la République se rend régulièrement dans les villes françaises pour y décorer, pour y attribuer un certain nombre de décorations à des gens qui ont bien mérité de la résistance. Et c'est ainsi le cas dans cette archive où l'on suit le président de la République française à Lyon, qui est consacrée capitale de la résistance.
Lyon a reçu M. Vincent Auriol, président de la République, venu décorer la ville et son maire, M. Édouard Herriot, pour leur belle conduite pendant les années d'occupation. C'est sur la place des Terreaux que le président de la République, en présence de M. Herriot et de M. Ramadier, ministre de la Défense nationale, a remis la croix de guerre à Lyon, qu'il a qualifié de capitale de la résistance. Un peu plus tard, à l'hôtel de ville, M. Vincent Auriol remettait à M. et Mme Édouard Herriot la médaille de la résistance en récompense de leur attitude durant les années de la guerre. C'est toute la population lyonnaise que le président de la République et la France entière ont voulu honorer par ce geste.
Le même président de la République va évidemment servir de caution, en tout cas de ciment à cette nouvelle unité nationale retrouvée. On oubliera les errements de l'ensemble de des 10 années qui viennent de s'écouler. Et donc, il va, en 1949, comme le font tous les présidents de la République depuis longtemps, il va émettre ses vœux à l'ensemble de la population française. Alors, on va avoir écouté un extrait de ses vœux où l'on se rend compte que malgré le temps, malgré la différence d'époque, eh bien, les vœux des présidents sont un peu toujours les mêmes.
Au seuil de 1949, le président de la République s'adresse aux Français.
Je souhaite que le spectacle de nos ruines toujours présentes et de tant de foyers encore sans abri écarte les égoïsmes aveugles trop nombreux, exalte le travail dans un fraternel souci de justice sociale et la solidarité de tous les Français, vertu nécessaire. Je souhaite que dans la métropole, comme dans la France d'outre-mer, rivalisant de travail et d'initiative, nous saisissions la chance magnifique qui nous est offerte par l'aide généreuse des États-Unis pour nous transformer, moderniser notre équipement, produire chaque jour davantage et créer cette communauté prospère qui doit être capable, dans 2 ans, de se suffire à elle-même et de retrouver bien-être et joie.
Vœux pieux de la part de ce président, qui en rappelle beaucoup d'autres et qui n'ont pas toujours été suivis d'effet. En tout cas, en 1949, eh bien, on se préoccupe de réconciliation internationale. Et c'est ainsi qu'une assemblée européenne se constitue pour essayer de réunir les belligérants d'hier et créer une vaste force de paix et qui maintienne l'Europe dans un état de pacification durable autant que faire se peut. Voici une archive qui rappelle la création de cette première Assemblée européenne.
C'est à Strasbourg, devenu pour un moment de l'histoire du monde le centre de l'Europe, que s'est réunie l'Assemblée consultative européenne, première expérience de Parlement international. Monsieur Churchill et Bevin, au nom de l'Angleterre, Schumann et Bidault, au nom de la France, Spaak, pour la Belgique, et Sforza, pour l'Italie, se comptaient au nombre des vedettes de ce rendez-vous de 13 nations, dont Monsieur Herriot ouvrait les débats.
Je voudrais en penser parmi vous, assurer que vous travaillerez de tout vos courage à réaliser pour votre part le plus haut idéal qui ait jamais été prononcé et proposé à toutes les convictions, à toutes les croyances, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.
C'est M. Spaak qui devait être élu le premier président de la nouvelle Assemblée. Et M. Churchill, parlant aux foules d'Europe par-dessus les foules de Strasbourg, devait leur dire:
prenez garde, je vais parler français. Ce n'est pas contre une race, ce n'est pas contre une nation quelconque que nous nous rassemblons. C'est contre la tyrannie sous toutes ses formes, anciennes ou modernes, que nous nous dressons résolument.
l'Europe devient une réalité.
Voilà, donc dans cette année-là, 1949, la France se reconstruit, la France se réunit, la France mobilise toutes ses énergies, mais ne manque pas d'humour. Et c'est ainsi que Pierre Dac, qui fut pendant le temps de la guerre le speaker de Radio Londres, de cette radio qui émettait, faite par des Français, qui émettait de Londres en direction du territoire national, qui émettait un certain nombre de messages personnels qui, en fait, étaient des messages codés pour la résistance. Eh bien, Pierre Dac, qui était humoriste avant la guerre, pardon, qui est devenu le speaker officiel de la France libre pendant la guerre, redevient l'humoriste qu'il était après la guerre. Et c'est ainsi que, à l'occasion, paradoxalement, d'une épidémie bien réelle de grippe, on lui demande son avis et on le consulte comme médecin un petit peu étrange et qui donne une ordonnance tout aussi étrange.
Une vague de grippe déferle sur le pays, vague ou raz de marée, car le souvenir des épidémies antérieures disparaît dans ce concert général de toux et d'éternuements. Les malades ne se comptent plus. On assiste dans tous les domaines à une sorte de disparition progressive de ce que la faculté nomme l'ingrippatus homo, l'être non grippé, qui pour se maintenir doit d'ailleurs faire feu de tout bois. Par contre, les pharmaciens voient s'ouvrir l'âge d'or, car selon la plus abominable des logiques, le malheur des uns continue à faire le bonheur des autres. Devant les perspectives hallucinantes de l'épidémie, les actualités françaises ont jugé de leur devoir d'interroger le plus célèbre des spécialistes, le professeur Pierre Dac.
Monsieur le professeur, que pensez-vous de l'épidémie de grippe italienne ?
Je suis contre. Oh là là, résolument contre. Mais d'ailleurs, dès l'apparition des premiers symptômes de cette grippe dite italienne, tenez, voici l'ordonnance que je viens d'établir et qu'il faut faire exécuter immédiatement par le pharmacien ou par tout autre commerçant qui voudra bien s'en charger. Mais voilà, primo, sulfate de parmesan râpé, 125 grammes. Chlorhydrate de gnocchi, une pelletée. Uranium, une livre et demie. Ortho-benzo-phényl-lito-malo-niluré, un seau. Phosphate de vermicelle, 1 mètre carré. Une louche à dessert, à chaque repas. Deuxièmement, faire de fréquents lavages d'intestin. Troisièmement, absorber le plus possible de vitamine A. Ah, je vous signale que la carotte contient énormément de vitamine A. Il y a donc lieu de prendre beaucoup de carottes. Oui.
Vous quelle forme ?
Hein, en lavage intestinaux. Oui.
Et voilà. Ça guérit ?
Non, mais ça occupe. Et pendant ce temps-là, on pense à autre chose.
À propos, docteur, que pensez-vous des grogues ?
Oh, beaucoup de bien, il faut prendre beaucoup de grogues. 8 à 10 grogues par 24 heures, dans la proportion de 10 gouttes d'eau pour 1 litre de rhum.
Merci, docteur. Bye-bye.
Voilà, je ne saurais trop vous prévenir de cette ordonnance quelque peu fantaisiste. Alors, en 1949, eh bien, en matière de jazz, il y a des musiciens qui commencent à se faire connaître. Ils ont déjà quelques heures de concert derrière eux, mais on a un véritable quatuor de trompettes qui sont des trompettes d'avenir. Et donc, nous allons évoquer les personnalités successives de Dizzy Gillespie, Fats Navarro, Miles Davis et Kenny Dorham, qui en 1949 sont un peu les troublions de la scène jazzistique qui bat son plein en termes de bebop. Ainsi, Fats Navarro, dans la revue Métrodome, s'exprimait de cette façon. Alors voilà ce qu'il dit. Ils ne connaissent pas les progressions d'accords. Quand ils les connaîtront mieux, quand ils seront familiarisés avec elles, alors peut-être aurons-nous un jazz véritablement moderne. Ainsi donc, parlait Fats Navarro, qui était l'un de ces jeunes trompettes montants et qui allait donner ses lettres de noblesse à un jazz plus moderne, un jazz à la fois plus musical et plus élaboré, plus écrit, même si l'improvisation, évidemment, a trouvé toujours sa place dans cette musique. C'est aussi l'année 1949 où l'industrie du disque se transforme, c'est-à-dire que les vieux 78 tours, qui sont encore pressés, vont peu à peu céder la place au micro-sillon, au fameux 30 cm, 33 tours. Et c'est une mutation considérable, puisque sous cette forme-là, la musique en général va plus largement se diffuser. Et le jazz en particulier, le jazz doit une, une fière chandelle, si j'ose dire, à l'industrie du disque et aux micro-sillons notamment. C'est sous ce nouveau mode de diffusion que donc vont se faire reconnaître les quatre musiciens qui nous préoccupent cette semaine. Et nous allons écouter le premier d'entre eux, le plus drôle probablement, il s'agit de Dizzy Gillespie, car on n'oubliera pas que dans le courant de sa carrière, eh bien celui-ci s'est présenté à l'élection présidentielle américaine. Il a été le précurseur d'Obama d'une certaine façon, puisque poussé par d'abord une sorte de plaisanterie, il a eu l'idée d'être candidat. Et puis les choses se sont presque matérialisé puisqu'il avait sorti des badges et donc son slogan c'était Dizzy for Prez, donc Dizzy for President, et la campagne a eu lieu, ça fait l'objet de commentaires un petit peu critiques, donc Dizzy a été pendant un petit moment l'incarnation d'une revendication noire, mais avec beaucoup d'humour comme ça l'était toujours à sa façon. Alors je vous propose d'écouter un premier extrait où sont réunis justement Dizzy Gillespie, Miles Davis et Fats Navarro. Ça s'appelle Overtime et c'était enregistré donc en 1949.
Thank you.
Over Time, une composition de Peter Rugolo, qui a assuré également l'arrangement de ce morceau, enregistré le 3 janvier 1949 à New York. Alors, c'est un groupe dont l'histoire est assez amusante, c'est le Metronome All Stars. En réalité, ce sont tous les musiciens que la revue Metronome, dans chacune des sections d'instruments, avait distingués. Et donc, c'est un groupe un peu inhabituel, enfin, tout à fait hasardeux, hormis le classement, évidemment, de la revue, dans lequel donc on pouvait trouver Dizzy Gillespie, Miles Davis, Fats Navarro à la trompette, Kay Winding, J.J. Johnson au trombone, Buddy DeFranco à la clarinette, Charlie Parker au saxophone alto, Charlie Ventura au saxophone ténor, Ernie Caceres au saxophone baryton, Lenny Tristano au piano, qu'on entend en solo d'ailleurs, Billy Bauer à la guitare électrique, qu'on entend aussi en solo, Eddie Safranski à la basse et Shelly Main à la batterie, le batteur au ballet magique, tel qu'on le surnommait. Et donc, sachez que si vous avez suivi les moments, les choruses d'improvisation, eh bien, les trompettes se succédaient dans l'ordre Miles Davis, Fats Navarro, Dizzy Gillespie. Mais Gillespie lui-même a convenu que c'était très difficile de les distinguer, tant à l'époque ils étaient tout aussi virtuoses les uns que les autres. Mais au fil du temps, eh bien, leur style a considérablement changé. Je vous propose d'écouter un autre extrait d'une autre formation, toujours en 1949, en mai, enregistrée à Paris, à la salle Pleyel, et c'est Saint-Louis Blues. Saint-Louis Blues, le standard de W.C. Handy, avec donc groupe de Dizzy Gillespie à la trompette, James Moody au saxophone ténor, Tad Dameron au piano, Barney Spiller à la basse et Kenny Clarke à la batterie. Enregistré à Paris à la salle Pleyel en mai 1949, il faut préciser que 1949, c'est une des premières années où les musiciens américains viennent très très nombreux à Paris et se succèdent très rapidement. D'ailleurs, un festival de jazz, le premier festival de jazz de Paris, est créé par Charles Delaunay à cette occasion. Je vous propose très rapidement de terminer cette évocation des débuts de Dizzy Gillespie par un duo en scat, c'est-à-dire en vocalise, entre Joe Carroll et Dizzy, qui a composé ce thème dont le titre énigmatique est « Jump, Did, le bas ». Jump to the bar, jump to the bar, jump to the bar. Oop a ba, oop a ba, da do do, oop a ba, do ba do ba dee ma. Come on, come on, she a ba do 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 do. Saddle ya, 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 chum chum le ba, chum chum le ba, upa ba, upa ba. Suddenly, little, 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 little,
little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little,
little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little,
little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little,
little, little, little, little, little, little, little,
little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little,
little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little,
little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little,
little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little,
little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little,
little, little, little, little, little, little,
little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little,